Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h10, le club de la presse numérique. Le sujet de ce soir, l'économie numérique a-t-elle perdu ses valeurs, avec un point d'interrogation. Et nous en débattons avec Séverin Naudet, qui est blogueur, qu'on retrouve d'ailleurs dans Tech & Co sur BFM Business, et l'un des dirigeants de la société Amaris. Et vous, Sandrine Cassini, journaliste au Monde, qui êtes restée depuis le début de cette émission. Le développement d'Internet marque l'avènement d'une nouvelle économie qui s'est développée depuis le milieu ou la fin des années 90. À l'origine, la culture qui nourrissait cette innovation, l'esprit geek et contre-culturel californien, un peu hippie, un peu comme ça, veggie déjà, visait à bâtir un monde meilleur. « Don't be evil », clamaient les fondateurs de Google. Les promesses étaient grandes, les aspirations humanistes plus grandes encore. Quelques décennies plus tard, et quelques milliards d'ordinateurs en plus, les promesses de la Silicon Valley sont-elles au rendez-vous? Un meilleur partage de la valeur a-t-elle eu lieu, par exemple avec les fintech ou les sites participatifs? La démocratie est-elle plus forte entre civic tech d'un côté et fake news de l'autre? Notre vie privée est-elle mieux protégée? Autant de questions qui se posent. Et nous allons nous demander, cette économie numérique a-t-elle perdu ses valeurs? Séverin Naudet, pour commencer.
Non, je crois pas qu'elle ait perdu ses valeurs. Je pense que elles sont encore très présentes et je pense qu'il y a encore une aspiration extrêmement forte portée par la génération des millénials qui a été engendrée par la révolution technologique du digital. Je pense aussi que ce qui a été délivré est à la hauteur d'une partie des promesses. Je pense que la société a été profondément transformée. On vivait dans un, particulièrement en Europe et dans le monde occidental, dans une société
centralisée, hiérarchisée,
statutaire, du top-down. Et ça a changé. On est rentré dans une société horizontale, communautaire, de la conversation. Donc il y a eu des changements qui sont profonds dans une économie de l'usage. Et ces changements, on n'est pas arrivé au bout. Pour autant, le débat qui a lieu aujourd'hui sur notamment une économie concentrée, monopolistique, etc. Alors d'abord, il y a un débat sémantique parce que en réalité, est-ce que c'est une économie de plusieurs oligopoles ou une économie de monopole? Il y aurait vraiment de matière à discuter. Et puis par ailleurs, moi je trouve ça un peu amusant en fait, parce qu'on a regardé avec commisération pendant des années, pendant 10 ans, cette économie grandir, et les baby-boomers
n'y croyaient pas,
du haut de leurs vieilles industrie se gossait en disant cette économie des jeunes, et ils le font encore d'ailleurs pour certains. Et puis tout d'un coup, quand ça percute
leur modèle économique,
d'un côté pour les industriels et leurs intérêts politiques pour les politiques de l'autre, qui voient tout d'un coup leur campagne changer, ils se rendent compte avec 10 ans de retard qu'il s'est passé quelque chose. Bah oui, il s'est passé quelque chose, et donc on a laissé une avance extraordinaire en termes d'innovation à tous ces acteurs, et donc ils ont pris la place. Et puis après, il y a un certain nombre de facteurs. Je peux donner 2 exemples. On n'a pas formé les talents, donc il y a une raréfaction des talents aujourd'hui. Et quand on veut créer aujourd'hui un nouveau modèle, une entreprise, quand on a une idée, on trouve pas les gens pour le faire, parce qu'ils sont tous chez ces acteurs, parce qu'on n'a pas suffisamment formé de gens, et on a continué à former des gens à des métiers qui n'existent plus ou qui vont disparaître. Il y a un phénomène dont on a beaucoup parlé, c'est cette envie d'une génération avec qui, on en reviendra sur le sujet tout à l'heure, on refusait de partager la valeur dans l'ancienne économie, qui a dit « bah moi j'ai envie de gagner des sous » et qui a monté des modèles très innovants et qui les ont revendus très vite à ces acteurs-là pour faire la culbute. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sont vendus à Facebook, il y a beaucoup de gens qui se sont vendus à Google, qui ont acheté beaucoup de, à la fois de talent d'un côté et beaucoup d'innovation de l'autre.
Sandrine Cassini.
Oui, alors le sujet est vaste. Peut-être juste pour rebondir.
Il est assez optimiste, finalement, c'est vrai.
Oui, il est assez équilibré, je trouve. Je partage assez ce point de vue. Peut-être juste pour donner juste 2 ou 3 chiffres qui mesurent un peu ce numérique. Effectivement, il est dominé par, par quelques grands acteurs. Si on additionne la valorisation d'Amazon, Google, Facebook et Apple aujourd'hui, on est à 3300 milliards de dollars. Donc, juste pour mémoire, le PIB de la France, c'est en gros 2000 milliards d'euros.
Donc, c'est plus que le PIB de la France.
C'est plus que le PIB de la France. C'est beaucoup plus que le PIB de la France. Donc, c'est quand même... ça dit quelque chose. Alors, c'est une comparaison qui est...
Qui vaut,
mais qui dit quelque chose sur la puissance de ces acteurs. Et alors... Ils sont pas tout seuls. Aujourd'hui, on voit que la Chine aussi prend beaucoup d'importance. On les voit moins chez nous. On s'en plaint moins. On se plaint beaucoup de la Silicon Valley. Mais les Chinois sont très puissants. Ils ont réussi à développer des géants de manière différente. C'est-à-dire que la Chine est restée quand même à son propre modèle fermé. Donc, elle n'a pas laissé entrer les Google, Facebook, etc., qui, eux, rêvent évidemment de prendre une partie de ce marché. Et du coup, ils ont leur Alibaba, Baidu, Xiaomi, Tencent, qui représentent 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, c'est vraiment... Et nous, la petite Europe, on est un peu coincé aujourd'hui entre ces deux mastodontes. Et on ne sait pas quoi faire face à ça. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose...
Qu'est-ce qui explique cette concentration
La concentration, il y a plusieurs phénomènes. Déjà, la Silicon Valley, enfin les États-Unis, ils ont une compétence, ils ont deux compétences qu'on n'a pas chez nous, mais parce que nous, on en a d'autres. Ils sont très bons en logiciel. Historiquement, ce sont des gens en software, en logiciel. Or, c'est le logiciel aujourd'hui qui domine le monde. Ce sont des entreprises de logiciel, c'est pas des entreprises de pub. Enfin, si, parce qu'ils gagnent de l'argent grâce à la pub. Mais leur compétence, le cœur, c'est le logiciel. Et ça, c'est une compétence américaine. Nous, on est très fort en mode, par exemple, la France. Donc, on a ce rattrapage à effectuer et on le fait. Mais évidemment, quand des gens ont des années d'expérience, ils ont...
Deuxième compétence qu'ils ont, vous en citiez deux.
C'est le capital risque. C'est-à-dire qu'ils ont cette culture du capital risque. Il y a, dans la Silicon Valley, des générations de capital risqueurs, c'est-à-dire des gens qui savent investir, qui savent prendre du risque.
Perdre de l'argent lorsqu'il le faut.
Et ils sont capital risqueurs de père en fils. Et ça alimente plus l'État américain qui a aussi financé des innovations.
Les universités, un mélange très...
Voilà, ça, ce mélange a créé la Silicon Valley. Et ça, c'est quelque chose qui s'est joué il y a 30, 40 ans. Donc c'est compliqué à rattraper.
Ouais, dans le prolongement de ce que dit Sandrine, elle a parfaitement raison. Il y a un sujet, c'est la taille du marché intérieur. Hein. On a raté il y a quelques années l'idée européenne. Si on avait su construire un marché intérieur qui était en état d'être compétitif, concurrent du marché américain et du marché chinois, on n'aurait pas les mêmes problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit bien dans ce que dit Sandrine. Elle dit on est fort en mode en France. Bah oui, d'accord.
Non, on est fort en mode dans le monde.
Oui, mais dans le monde, mais en réalité, d'abord, c'est pas tout à fait les mêmes modèles économiques, c'est que la taille du marché intérieur, quand on est les États-Unis, ça compte énormément.
Oui, 300 millions d'habitants, 15 fois de superficie plus grande que la France, 5 fois plus d'habitants.
Et la Chine, c'est pareil, quand on démarre un modèle, on a une vitesse d'accélération qui est phénoménale. Et puis par ailleurs, c'est ce que Sandrine disait aussi, c'est qu'il faut pas oublier que les Américains ont subventionné de manière colossale leur innovation et continuent à subventionner les acteurs de l'économie numérique aux États-Unis dans un dumping mondial qui est extraordinaire. Avec c'est adossé effectivement à cette capacité de capital risque, où on sait que les Américains sont capables d'investir 10, 20, 50 fois plus au démarrage d'un modèle.
Oui, c'est une compétence, c'est-à-dire que ils l'ont fait dans les années 50, ils ont pris des gros bouillons, et puis les petits-fils, etc., continuent, et aujourd'hui, ils savent faire, c'est un savoir-faire. Aujourd'hui, on n'a pas cette génération-là. Enfin, en tout cas... Voilà, on met du temps à la mettre en place.
Alors, dans la matrice que j'évoquais en début de ce segment, on évoquait ce côté un peu hippie, ce côté green. On sait que la Silicon Valley, c'était aussi une histoire qui est sur les campus de Berkeley en 68. Ça commence aussi avec le développement des autoroutes de Eisenhower. C'est un phénomène qui, entre la Beat Generation qui va à San Francisco, le quartier du Castro, etc. C'est cette innovation qui qui va se faire dans un mélange très original, à la fois financier, contre-culturel, avec également beaucoup d'étrangers et de diversité, qui promet, et cette promesse, c'est un capitalisme humanisé, c'est une société qui ne soit pas simplement de marché, mais qui soit aussi une société du partage, et notamment du partage de la valeur. Et là, on a l'impression que cette promesse aussi, Séverin Audet, n'a pas été respectée totalement.
Là, moi, je pense qu'elle a été tenue, comme je disais tout à l'heure, en grande partie. La question qu'on peut se poser, elle a permis à beaucoup de gens de sortir des modèles traditionnels, de sortir des modèles d'éducation traditionnelle qu'on peut avoir en France ou en Europe, de s'inventer une vie entrepreneuriale ou intrapreneuriale ou économique différente. Et pour moi, l'économie de l'usage, c'est une vraie révolution. Et c'est vrai aussi dans le modèle de société de l'information, où on est passé d'une société de l'information complètement verticale à une conversation, à une société de horizontale. Pour autant, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quand on a le niveau de capitalisation boursière dont parlait Sandrine tout à l'heure, la puissance des entreprises auxquelles on pense, par exemple les GAFA, est-ce qu'elles sont dans une logique de développement durable d'un modèle et de prolongement d'une promesse, pardon, ou est-ce qu'elles reproduisent un modèle ancien? Et par exemple, Amazon, qui est pointé du doigt par Bernie Sanders aujourd'hui aux États-Unis sur son salaire médian, qui est en dessous du salaire médian américain, et où l'État est obligé de compléter le revenu des salariés d'Amazon par des aides parce que ils n'arrivent pas à s'en sortir. Là, il y a un problème, et il y a une erreur fondamentale pour demain, en fait. Je pense que il faut pas que l'économie numérique, ça serait très grave, que la nouvelle économie tombe dans le travers de l'ancienne, qui est de continuer à essayer de faire croire que au départ, effectivement, on est un entrepreneur, on a pris des risques, et que quand on passe à une économie de la rente, en réalité on ne partage pas la valeur avec ceux qui la créent, et on crée un système à deux vitesses. Et ça, c'est vraiment le danger de demain.
Sandrine Cassini.
Oui, peut-être d'abord sur ce rêve, cette utopie. On voit bien aujourd'hui que la Silicon Valley, elle est un petit peu en pleine remise en question. Aujourd'hui, les start-upers américains choisissent d'autres endroits que la Silicon Valley pour créer leur entreprise. Pourquoi ? Parce que des déséquilibres énormes se sont fait jour. On peut plus se loger, on peut plus embaucher un développeur. Ça coûte énormément d'argent, on peut plus le faire. Et voilà, donc je pense que à ce titre-là, elle est quand même beaucoup remise en cause. Ce modèle qu'ils ont créé, qui était un modèle idéal, aujourd'hui, il se prend un peu les pieds dans le tapis. C'est pas du tout, c'est une société très inégalitaire, c'est un endroit très inégalitaire, poussé à son paroxysme. Donc ça, il va falloir corriger ça. À tel point aujourd'hui qu'on la fuit. Après, sur le partage de la valeur, je pense que c'est pas tellement... Alors, chez Amazon, je pense que c'est un cas particulier, parce que chez Apple, Facebook, Google, les gens sont très bien payés. Le partage de la valeur, il se fait plutôt entre les dominants et les entreprises avec lesquelles elles contractent. C'est ça la vraie difficulté. C'est comment on fait quand on est une petite boîte face à ces géants. Ce sont ces déséquilibres-là qui sont créés par nature, parce que face à des géants, on n'est rien.
D'où un besoin de régulation, sujet dont on revient très régulièrement dans cette émission.
Ce qui est très nouveau depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est que Obama avait fait de la Silicon Valley des alliés objectifs. Alors, Donald Trump, pour des raisons qui ne me paraissent pas complètement fondées, mais en tout cas a décidé de se battre contre eux, lui préfère les vieilles industries. Et aujourd'hui, un débat qui n'existait pas encore il y a 2 ou 3 ans aux États-Unis émerge sur la nécessité réellement de réguler ces géants
de l'Internet. Ouais. Pour terminer, troisième au fond idéal qui était celui porté par cette utopie californienne, c'est un idéal de transparence, d'open source, d'open data. Et là, on voit que, notamment à partir de la face cachée des algorithmes, mais beaucoup d'autres choses, que cet idéal est aussi un petit peu... suscite une déception, c'est vrai, Nodé.
Oui, alors... Je crois qu'il y a deux sujets quand même. On a un peu tendance à confondre et à mon avis à se tromper de débat quand on parle des plateformes aujourd'hui, et donc le sujet est essentiellement autour de Facebook, où on considère que Facebook est un média au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale et que Facebook est là pour informer les gens, sauf que c'est pas du tout le cas. Et Facebook ne s'est jamais vécu comme ça. Facebook,
c'est un outil.
C'est un outil de
qui n'est ni bon ni mauvais en soi.
Exactement. Au départ, de mise en relation entre les gens qui ensuite monétisent son audience avec de la publicité sans aucun modèle ni éditorial ni idéologique derrière. Et alors, effectivement, du coup, on se rend compte que ça a des conséquences. Bon, mais il faut arrêter de penser que raisonner comme face à un modèle traditionnel. Et puis, si je reviens sur ton autre point, Frédéric, tu parles d'open data, tous ceux qui auraient dû se saisir de cette immense opportunité que le web apportait de faire effectivement plus de transparence, d'exemplarité, de démocratie collaborative, participative, ne l'ont pas fait et ne le font toujours pas. On a eu ce débat ici l'année dernière. Il suffit de voir où on en est au Parlement français sur la transparence et sur des modèles d'open data et de conversation ouverte. On est au niveau zéro, nulle part.
Pour terminer, Sandrine Cassini.
Oui, juste, ce dont on se rend compte, c'est que ces grandes plateformes, la Silicon Valley, ces grandes plateformes. Ce qu'a fait émerger Cambridge Analytica, c'est qu'elles ont une responsabilité finalement. C'est pas parce que, ce sont pas des médias traditionnels au sens où on l'entend, mais elles manipulent des données très sensibles de gens et on voit bien les limites de l'exercice. C'est-à-dire que quand elles se prennent les pieds dans le tapis, ça met en lumière la nécessité de contrôler, de pas faire n'importe quoi, etc. Parce qu'elles ont une responsabilité. Et c'est ça dont elles n'ont pas eu conscience pendant trop longtemps. Alors, ils font des mea culpa aujourd'hui parce qu'ils sont obligés. Mais ils ne peuvent pas s'en laver les mains. Et c'est ça que ça a un peu battu en brèche.
Utopie, réalité d'aujourd'hui. On voulait aborder cette question. On y reviendra. C'est au fond un peu un des sujets qu'on traite chaque semaine dans Soft Power. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à tous les deux. Sandrine Cassini, journaliste au Monde, et Séverin Naudet, blogueur qu'on retrouve dans Tech & Co sur BFM Business et l'un des dirigeants de la société Amaris.